Pop-up-ien, aujourd'hui, troisième épisode de notre semaine spéciale consacrée à un mec qui a bouleversé les médias. Coluche. Pourquoi? Comment? Sa partenaire de jeu Maryse Gildas et le regretté Jean-Yves Lafesse, nous en ont parlé. Pop-up-ien, et tous les autres aussi, bonjour. Nous sommes mercredi, c'est-à-dire en plein cœur de la semaine Coluche, et vous vous dites, tiens, ils vont sûrement parler de Coluche et des enfants, puisque c'est mercredi. Eh ben non, d'abord parce que Coluche n'a rien fait de particulier pour les enfants, à part nourrir ceux des malheureux qui n'ont rien à bouffer, et qu'ensuite, à ma connaissance, il n'a jamais enregistré Pierre et le Loup, comme c'est l'usage, ou même l'abbé Pierre et le Loup, même s'il partageait avec ce dernier, je parle de l'abbé Pierre, hein, pas du loup, un même altruisme, une même générosité, une même colère. Alors s'il y a des enfants à l'écoute, je préfère les prévenir qu'il y aura peut-être un ou deux gros mots, mais ne vous inquiétez pas, chère tête plus ou moins blonde, les mots ça existe dans toutes les tailles et l'important c'est de savoir s'en servir. Et ça Coluche, il savait faire. Et il s'en est servi sur scène. On en parlait lundi avec Gérard Lanvin, au cinéma, on en parlait hier avec Agnès Soral et François-Xavier Demaison, et aussi dans les médias, radio et télé. Et ça c'est notre sujet du jour, et c'est avec Maryse, Pierre Lescure et Jean-Yves Lafesse qu'on va en discuter. Et croyez-moi, il y a de quoi dire. Allez, roule ma poule, pop, spécial Coluche, épisode 3, c'est parti.
France Inter. Pop, Antoine de Paune.
Il écoute pas la radio. On est en train de la faire, il l'écoute pas, t'as qu'à voir.
Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme que nous vous racontons. Bonjour Maryse Gildas.
Bonjour Antoine.
Je vous présente Charline.
Enchantée, bonjour.
Bonjour Charline.
Maryse, une femme qui a bien connu ce mec pour avoir travaillé avec lui. Je parle de Coluche. Maryse, bienvenue dans ce pop-up spécial consacré à Coluche et aux médias, comme je le disais à l'instant. À mes côtés, à moi, je vous la représente, c'est ma Maryse à moi, même si je ne suis pas son Gildas, enfin officiellement.
Mais je ne veux pas de problème avec la justice.
Attention, tu sais ce qui m'est arrivé avec Gildas.
Hein, oui, je sais.
À force de travailler avec lui.
Oui, oui, bon, on en reparlera en privé.
Les familles respectives.
Bonjour, Charlie. Maryse, Coluche, vous avez donné un petit pouet-pouet hein, pour éventuellement couvrir ses grossièretés à l'antenne dans l'émission Il y en aura pour tout le monde, que vous animiez avec lui sur Europe 1, oui. À la mi-journée, parce que vous aviez une légère phobie pour les blagues scato.
Mettez les poils droits sur les bras.
Bah voilà.
Non, je ne supportais pas les scatologiques.
Donc, vous l'aviez prévenu, vous lui avez dit, ouais. il suffisait de lui dire ça pour qu'évidemment
il en fasse plus.
Il en rajoute.
Bah tiens.
Vous avez réussi à sortir indemne de cette période?
À peu près. En tout cas, pendant 9 mois, j'ai ri tous les jours. Donc, c'était un bonheur total quoi, ouais. Pour moi. Ouais.
C'est très étonnant, ça me rappelle vaguement quelqu'un, ce profil de personne qui, dès qu'elle sait qu'on est incommodé par quelque chose, s'empresse de l'appuyer lourdement. Coluche, un provocateur certes, mais qui vous a sacrément courtisé pour vous avoir à ses côtés.
Courtisé, oui, je dirais pas courtisé, mais simplement, on n'imposait rien à Coluche. Donc, il m'a choisi. Alors, évidemment, comme Philippe était directeur de l'antenne à l'époque, sur Europe, Gildas, évidemment, on a pu penser, on a dit d'ailleurs, je sais, on a dit, ah, évidemment, c'est Maryse qui va. Et c'est pas vrai. Parce
il vous a voulu.
Oui, il m'a voulu. On n'imposait rien à Michel, à Coluche, quoi. Non, donc il m'a choisi. Pourquoi? Il a dû sentir que j'étais cliente. Ça, c'est vrai que j'étais cliente. Mais on était tous clients.
Et puis vous l'étiez depuis longtemps, parce que vous faisiez partie des spectateurs du Café de la Gare.
Oui, enfin, on est allé dès le début, quoi. Dès 73, on est allé le voir.
Alors revenons à ce numéro spécial de Pop consacré à Coluche dans les médias. L'annonce de sa petite idée qui deviendra par la suite les grands restos, son lien tumultueux avec Lady Media, la censure de l'époque, l'épisode Canal+, le mariage le plus médiatisé de l'année en 85. Voilà le menu chargé de ce numéro spécial. Avec nous également tout à l'heure un habitué des radios libres et d'un ton qu'il était tout autant.
Vous téléphonez au 3138, vraiment, d'urgence, parce que j'en ai plein le cul, j'ai pas envie de me crever le cul comme ça pendant toute la nuit pour entendre toujours le même discours.
Jean-Yves Lafesse, qui sera avec nous plus tard dans l'émission. Maryse, nous avons demandé à plusieurs personnes de compléter cette phrase. Pour moi, Coluche, c'est, suivi de trois petits points, remplissage des pointillés aujourd'hui avec un roi. Mais oui, Alexandre Astier.
Pour moi, Coluche, c'était déjà la fierté de savoir que ce gars avait été élevé aussi chez les Italiens, chez les ouvriers, comme moi j'étais à Gerland, là, et qui venait d'un bled qui s'appelait Casalvieri, Moi, les miens venaient de Casalatico. En gros, les deux bleds sont séparés de 700 mètres à vol d'oiseau, je crois. Donc, j'avais déjà une grande fierté de ça. Mais mon plus gros souvenir, c'est aussi le pire, c'est le jour de sa mort. Je devais avoir 12 ans depuis quelques jours. Et je me souviens très bien que j'ai eu peur ce jour-là. Même à 12 ans, j'ai eu les jetons. Je me suis dit, mais qui c'est qui va dire ça maintenant? Qui c'est qui va dire tout ça? Qui c'est qui va n'avoir peur de personne et pouvoir dire tout ça aussi facilement et parler au nom de ceux à qui on a retiré toute dignité, toute fric, tout... Et j'ai eu les jetons. J'ai eu l'impression qu'on venait de perdre quelque chose comme Robin des Bois ou un truc comme ça.
On a tous perdu notre bien. Robin des Bois, Alexandre Astier.
Ah oui. C'est bien ce qu'il dit, c'est exactement ça. Il y a une phrase de Josiane Balasko que j'aime beaucoup, elle a dit, à sa mort, elle a dit « bordel de vie, Coluche est toujours mort
». Maryse, la radio, par sa spontanéité, sa réactivité, était un média totalement Coluchot-compatible. Avant lui, vous aviez eu pour partenaires Michel Lancelot, Jean-Pierre Foucault, Jean-Marie Cavada, Michel Drucker, qui sais-je encore. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, déstabilisé peut-être, dans votre travail avec Coluche ?
Déstabilisée. Oh, je pourrais pas. J'ai pas été déstabilisée. On m'avait prévenu, il devait se refaire faire il avait une image à se refaire. Ouais. Parce que 82 avait été terrible avec la Guadeloupe, on n'en parle pas. Et il avait appelé Philippe en lui disant, voilà, Philippe, directeur de l'antenne à l'époque.
Gildas.
J'y arrive pas. Il l'avait appelé en lui disant, écoute, ma poule, je voudrais bien faire un billet d'humeur. Je suis en Guadeloupe maintenant, je suis clean, je suis propre, je reviens, je veux faire de la radio, je reviens chez toi. On fait un billet d'humeur en direct. Et Philippe a répondu, oui, d'accord, mais avec le décalage, ça ne peut pas coller, quoi, sur le matin.
Ouais.
D'accord. Alors, il est arrivé quand même, il est revenu à Paris, il est venu voir Philippe et là, il a coué Gildas et il lui a demandé, voilà, je reviens, est-ce que tu as du temps pour moi? Je voudrais faire l'après-midi. Quand tu veux, l'après-midi. Alors Philippe est allé voir la rédaction, la direction générale, qui n'était pas tellement pour.
Très chaude.
Ouais. La première fois, ça ne s'était pas trop bien passé. Donc, surtout à la rédaction, quoi. Les journalistes en avaient peur.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc il a bataillé, il a réussi, et voilà, on a commencé, pour moi, au mois d'août. Jusqu'en avril 86.
C'est un doux euphémisme que de vanter les capacités d'impro de Coluche. Toute tentative de préparation, de conduite d'antenne était-elle vaine ?
On travaillait beaucoup, hein. Il nous faisait arriver.
Je ne parle pas de travail, mais de prépa et de coordination des choses.
De préparation. Ouais. On arrive. Il nous faisait arriver à midi pour une émission à 16h30, enfermée. Hein, personne ne rentrait, enfin, on n'était pas tous les deux. Il y avait évidemment le réalisateur, Martial Courtois, il y avait Ludovic Paris, il y avait Jean-Michel Vagelzi, il y avait Aldo Martinez. Voilà, ça c'était
l'ex-bassiste.
L'époque à l'antenne, on était, ce bloc-là. Et après, alors on commençait. C'est-à-dire que Jean-Michel, qui l'appelait Jean-Mi la science, Jean-Mi avait toutes les unes de journaux, toutes couleurs confondues, et il lui lisait les unes. Et c'est là que j'étais en admiration totale devant Coluche, c'est que il lui lisait la une, et Michel trouvait tout de suite ce qui allait faire rire. Mais tout de suite, c'était d'une fulgurance incroyable, quoi.
Mais donc c'était beaucoup de travail en amont pour finalement à l'antenne donner cette impression d'impro.
Ah, c'était même un bordel. C'était même un bordel à l'antenne.
Le morceau que Coluche a le plus joué, rejoué et surjoué à l'antenne même, c'était celui de Balavoine.
Oui.
L'Aziza, et nous l'écouterons en fin d'émission. Mais en attendant, pour commencer, je vous propose un morceau de Coluche lui-même. Évidemment, c'est le blues de Clermont-Ferrand.
Papa dit fiston, te voilà 18 ans, il commence à être temps. Que tu gagnes ton couteau, ma mère a mis dans ma valise, dès là c'est neuf pour mes baskets, une ceinture du docteur Gibault, 18 slips et 36 chaussettes. et je m'en vais chantant. Sablouine, Clermont-Ferrand. Comme je ne sais rien faire, car rien je ne suis bon, j'ai fait comme mes frères, j'ai choisi la chance. Je suis parti gagnant à la conquête des foules. J'ai fui Clermont-Ferrand, mais la foule me refoule. Wow, je suis un rocker français planté dans ses baskets. Depuis je vais seulement blues et rock à tout vent. J'ai chanté dans les bois, oh, mais c'était des tamas. J'ai dit les gars, je suis Jésus. Là je crois que j'aurais pas dû. Pour une fois ils m'ont écouté. Sur mon appli ils m'ont cloué. Rocker français planté dans mes baskets. Depuis, je suis un ringard rocker, mon blouson noir sans la poussière. J'ai rêvé d'être le meilleur, et je suis à la traîne derrière. Je suis là, mode rétro. Toi qui passes sans me voir, j'ai toujours le rock dans la peau. Même si j'ai un rétro de retard, j'irai toujours chanter.
Coluche, le blues de Clermont-Ferrand, premier morceau de ce troisième hors-série de Pop-Pop-Pop consacré à Coluche et à son rapport aux médias aujourd'hui. Alors avec nous, sa partenaire de jeu sur Europe 1, et qui est aujourd'hui la nôtre sur France Inter, Maryse Gildas. Maryse, vous dites, quand on travaillait avec Coluche, il fallait vivre avec, vivre complètement avec lui. Et dans cette troupe, il y avait donc Jean-Michel, son secrétaire particulier, son fidèle Ludo, son coiffeur, Aldo Martinez, l'ancien bassiste des Chaussettes Noires, et une ambiance folle régnait dans ce studio. Expliquez-vous. Et vous deviez canaliser cette troupe. Quel genre de méthode vous employiez pour vous fondre dans cette masse agitée ?
C'était pas facile parce que je vous dis, c'était un bordel. Tout le monde rentrait. Alors les copains arrivaient. C'était rouge. On rentre dans le studio. Bonjour. Lanvin arrivait comme ça souvent. Son coiffeur particulier arrivait. Son livreur de il se faisait faire des comment ça s'appelle
des boxeurs.
Des boxeurs en soie.
En soi.
Sur mesure, monsieur. Ah, mais attendez. Ah, oui. Et il les essayait pendant les pubs. N'est-ce pas? Donc, évidemment, vous voyez, tout le monde descendait, la rédac descendait, tout le monde était.
C'était un spectacle, oui.
Ah, c'était un spectacle. Non, c'était pas facile.
Pour poser la question sensiblement différemment, une bande masculine, on ne va pas se le cacher, dont le comportement ne brillait pas toujours avec la gente féminine, tout le monde l'a dit par la suite. Mais pour vous, il restait Mimi le plus gentil.
Oui. Oui, parce que d'abord, il voulait être Mimi le plus gentil, donc moi j'appuyais là-dessus, donc là, il acceptait ça. Mais avec moi, il a été, je dirais même, d'une délicatesse. Mm. Je ne sais pas si le mot délicat va à Coluche, mais oui, il lui va.
Si, si, ça revient même souvent, quand on parle avec les gens qui l'ont bien connu, il y a cette délicatesse qui revient régulièrement. Plongeons-nous justement dans cette ambiance, avec un florilège de quelques-unes des blagues de l'émission.
C'est des Belges qui sont, marchent là, dans les rues comme ça. Ah putain, d'un coup, il y en a, ils s'arrêtent, ils disent, regarde voir ce qu'il y a sur le trottoir, là. C'est curieux, ça, qu'est-ce que c'est, hein? Alors, il y en a, il ramasse dans sa main, puis l'autre, il goûte avec le doigt. Moi, il dit, c'est curieux, puis ça, on dirait que c'est une merde. Alors, l'autre, il goûte. Oh, penses-tu, je ne crois pas, fais voir. Oh, oui, c'est vrai, on dirait bien que c'est une merde, hein? Ah, il demande à un autre, dites-moi, d'après vous, vous ne qui savez rien. C'est ce que ça, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Ben, l'autre dit, c'est une merde, hein? Ben, il dit, quand je pense qu'on a failli marcher dedans.
Vous la savez, la différence qu'il y a entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges? T'es une abominable paire de...
C'est un qui a une lape lapine. Tu vois, un animal. Tu vois, blanc. Féminin, quoi. Comme un lapin, tu veux. Mais en fille. Une lape lapine. Alors, il dit à une copine, à lui, tu veux pas me le garder pendant les vacances. Alors, la gonzesse, elle garde la lapine. Et puis alors, tout ça, le mec, il va en vacances. Et puis alors, il rencontre le mari de la gonzesse à qui il a donné la lapine à garder. Et le mec, pendant les vacances, il a attrapé la chaude de pisse, à la chaude de pisse. À fond, elle a son fond d'ailleurs aussi, de pisse. Et alors, le mec, il voit son pote, alors il lui dit, à la pine. Alors l'autre, il dit, bah oui, comment tu le sais? Parce que je l'ai refilé à ta femme avant de partir.
Elles n'étaient pas toujours drôles, hein. Mais lui, il en faisait.
Ah là, je vous entends, on vous entend très bien rire derrière, oui, oui. Quand même. Hein,
avec là, elles étaient pas mal.
Un discret petit poète-poète, de temps en temps. Mais moins que vous auriez pu, vous le laissiez quand même.
J'aurais pu faire plus, oui. Ouais.
En quel terme est-ce qu'il vous avait assigné, entre guillemets, votre mission, Coluche? Qu'est-ce qu'il vous en avait dit?
Non, il ne m'a pas donné de mission, moi.
Rien?
Non. Il m'a dit, t'es avec moi,
ouais.
Tu restes avec moi, c'est tout. Mais c'est tout.
C'est tout. Rien de plus.
Non.
Le cahier des charges, c'était ça.
Non, ouais. Si j'avais envie de parler, je lui tapais sur l'épaule. Mmh. Et puis, voilà, il me laissait faire. Mais non, il n'y avait pas de mission particulière. Ou quand j'en faisais trop, il me disait, ok, oh, tu fermes, camembert.
Mais votre rôle, Marie, c'était quand même de canaliser autant que
oui,
faire
autant
se peut, hein,
oui,
cette verve, cette
mais
énergie.
Il voulait de l'ambiance, de toute façon. Il fallait une ambiance.
D'essayer de contenir un peu quelques légères grossièretés, toujours prêtes à jaillir. Vous aviez une prime de risque pour...
Non, mais j'étais bien payée.
Est-ce que vous aviez au moins un joker d'exfiltration en cas de danger?
J'avais dit, moi, je sors du studio. Hein, ouais. Ça me fait pas rire, les blagues scatologiques. Et donc, elle m'a dit, moi, je t'achète le poète-poète, tu me fais poète-poète si je déborde. Donc, j'aurais pu faire poète-poète de 16h30 à 18h.
Hein. Maryse, votre mari s'appelait Philippe Gildas. C'est un homme que j'ai aussi beaucoup aimé. Enfin bon, c'est vous qui l'avez épousé. Hein. Mmh. Et il était à l'époque patron des programmes d'Europe 1, mais il a dû convaincre, que vous le disiez il y a quelques instants, parce que les journalistes n'étaient pas du tout favorables au retour de Coluche à l'antenne, surtout après l'épisode de 81, la fameuse campagne dont nous avons déjà parlé, dont nous reparlerons demain avec Attali et Romain Goupil. Ils avaient peur de quoi exactement? Qu'il instrumentalise l'antenne?
Oui, je pense que c'est ça, oui. Comment il était venu déjà en 79, moi j'étais pas avec lui à l'époque,
ouais.
Mais ça s'était mal passé, parce que pour aller, on est en 79, il faut dire, hein. Donc ouais. Ça a changé aussi, tout a changé. Et il avait fait peur déjà, donc la deuxième fois, c'était pas... Puis 81 était passé.
Il y avait des terrains de jeu très très délimités, on ne passait pas d'un genre à l'autre, on
ne
jouait pas avec l'info.
Pas comme ça, on ne disait pas merde à l'antenne à l'époque. Hein.
Ouais.
Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que ces deux expériences de radio ont été assimilées par lui comme des formes de censure. Ça ne s'est pas très très bien terminé. Est-ce qu'il vous expliquait pourquoi est-ce qu'il tenait tant à retourner à la radio? Qu'est-ce qui lui plaisait dans l'exercice?
Ah, il a toujours aimé la radio. Et il voulait revenir, hein, parce que là, il partait donc sur Opio. Hein, en avril, quand on a terminé, il partait sur Opio. Il avait le Festival de Cannes. Il finissait d'écrire son spectacle pour le Zénith. Et il voulait revenir après, à Europe. C'était question avec Philippe, il en avait parlé, avec Philippe Gildas, et c'était ok. Non, il adorait la radio. Mm.
Un jour, le 26 septembre 85, Coluche vous dit « Ma petite chérie, je vais lancer aujourd'hui les cantines du cœur ». Alors vous lui demandez alors s'il en a parlé à Philippe Gildas, et il répond « Non, j'irai le voir après, il va gueuler, c'est pas la peine, tu dis rien ». Et arrive cette séquence qui bousculera à tout jamais la France entière.
Voilà.
S'il y a des gens... qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait Un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement.
Comment avez-vous vécu ce moment devenu tellement symbolique?
Oui, ben, on en parlait depuis quelques semaines, mais en dehors de l'antenne. Il y avait eu l'Éthiopie, c'est parti comme ça. Et je disais, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui meurent de faim encore en France avec toutes les denrées qu'il y a et qui sont perdues, bêtement. Donc, il faudrait faire quelque chose, on va le faire. Bon, le gouvernement le fait pas, ben nous, on va le faire. Et voilà, mais ils pensaient que c'était pour une année, quoi. Et après, ils se démerderont. Voilà, il avait dit exactement ça. Mais le lancer comme ça, c'était le 23 septembre, je me rappellerai toute ma vie. Il a lancé comme ce qu'on vient d'entendre, et c'était pas prévu, Philippe encore moins, et personne de l'émission, moi, le réalisateur, n'était pas prêt.
Et alors justement, il est allé voir Philippe Gildas à la fin de l'émission. Juste après, pour lui dire, ça y est, voilà, l'annonce est faite. Vous vous souvenez quelle a été la réponse de Philippe, comment il a réagi?
Philippe était très étonné, un peu énervé quand même.
Ça pouvait lui arriver.
Ça pouvait lui arriver, un petit peu colérique. Et Coluche lui a dit, t'en fais pas ma poule, je m'occupe de tout. Et il s'est occupé de tout. Ouais. Donc,
le tour de force et le grand coup de génie, c'est d'avoir réussi à rallier de son côté ceux qui jusqu'ici avaient plutôt peur de lui, à savoir les annonceurs sur une radio qui n'est pas une radio publique, c'est quand même l'honneur de la guerre. Est-ce qu'ils se sont immédiatement mis au service?
Oui, tout à fait.
Tout de suite...
Oui, vraiment. Tout le monde est arrivé. Après, on a fait... Alors, il fallait des sous au départ. On n'avait pas de sous, il n'y avait rien. Donc, on a fait une grande émission dans le hall d'Europe 1, avec tous les copains. Ceux qui ont des sous sont copains de sous. Ceux qui peuvent donner, ceux qui même ne peuvent pas, ou un franc, deux francs, on est en francs à l'époque. En 85, donc, est arrivé Michel Sardou qui a donné le plus gros chèque. Moi, j'étais à côté de lui, donc je l'ai vu, le chèque.
Un gros chèque,
vraiment. Bah, la voix d'un donné. Enfin, tous ceux qui avaient gagné bien leur vie ont beaucoup donné. Et puis, il y avait les passants qui pouvaient rentrer, qui donnaient un franc, deux francs, dix francs. Oui, ça a été... une belle émission, ça.
On est en train de parler de Coluche et de Coluche dans les médias, c'est dans cette semaine consacrée entièrement à Coluche dans Pop 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 sur France Inter. Maryse, on va parler de radio libre, de liberté, surtout d'expression, dans la suite de Pop 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 avec vous et avec Jean-Yves Lafesse qui va nous rejoindre juste après un morceau qui résonnait dans la pop culture de 1985, c'est Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
Yes.
Don't Need Another Hero, Tina Turner en 85. C'était la BO d'un Mad Max, Thunderdome, je crois. Et We Don't Need Another Hero, en tous les cas, celui-là, celui dont on parle aujourd'hui, Coluche, est totalement irremplaçable. Cette semaine spéciale continue avec Marie Gildas et avec Jean-Yves Lafesse. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Antoine, bonjour Marie.
Bonjour Jean-Yves.
Et ça va?
Oui, ça va très bien.
Je peux vous faire la bise à tous les deux?
Ah oui. À Charline, non, aussi. On n'embrasse pas Charline.
Tout le monde, je vous embrasse.
Personne ne m'embrasse. Jamais.
Jean-Yves, longtemps, nous avons pensé que la fesse, c'était anatomique, mais en réalité, ça veut dire la foi en breton. Je l'apprends ici à tous les noms bretonnants. Et vous avez désormais élu domicile à Vannes, ce qui est presque trop beau pour être vrai, quoi. Jean-Yves Lafesse à Vannes.
Bon. Alors, Antoine, je note que vous êtes passé au vouvoiement.
Oui.
Si vous permettez, je passe au vouvoiement également.
Allons-y, Jean-Yves.
Voilà, c'est bon, on va se vouvoyer. Oui.
Jean-Yves, tu as commencé à la radio à Carbone 14 sous le nom de Jean-Yves Lambert, une radio libre dont le slogan était « La radio qui vous encule par les oreilles ». Pardon Marie, je suis désolé.
Là, c'est devenu celui, l'officiel de France Inter.
Oui, mais écoutez, je vous laisse la responsabilité de ce propos. Et dans laquelle il y avait des punks, des toxicos, des babas, des alcoolos, des communistes, des libertaires, des autonomes. Enfin bon, Carbone 14, c'était un équilibre permanent entre l'implosion et l'explosion, dites-vous, ambiance.
Si t'as perdu le moral, si t'as perdu une jambe, si ta femme t'a quitté, si t'as perdu la guerre, écoute Carbone 14, oh oh, la radio des schmardos.
Tu sais que à Baccarat, il y avait un communiste qui s'est fait passer pour Jésus. T'as jamais entendu parler du cristal de Baccarat? Ah, je vais la sortir! Le cristal de Baccarat, c'est pas mal! Non?
J'ai pas compris.
Les staliniens, on dit que c'est des stales.
Ouais.
Bon, le Christ, un mec s'est fait passer pour Jésus en Lorraine à Baccarat.
Le cristal
de Baccarat. Bon, mais excuse-moi, ma biche, moi je suis un peu fatigué à cette heure-ci. Voilà.
Jean-Yves Lafesse. Est-ce que vous pouvez resituer en quelques phrases le contexte radiophonique de l'époque en ce début des années 80, s'il vous plaît?
C'était ça. On avait comme pseudo David Grossex, Simone Cuisse d'Acier, Super Nana, La Fesse, etc. Ouais. On faisait des émissions qui s'appelaient par exemple 50 millions de voleurs, où on donnait tous les trucs pour arnaquer tout le monde en direct. On était une bande de déconneurs, hein, parce qu'on n'a jamais été des comiques ou des humoristes. On n'avait pas ces talents-là. C'était une fusion, tout pour la déconne et en toute liberté, bien sûr, parce que sinon c'est pas possible de déconner.
Vous dites que Coluche a donné, je cite, un coup de projecteur sur les radios libres. Alors comment un profil radiophonique comme celui de Coluche a pu vous aider?
Sa liberté. Sa liberté de ton, et puis comment il a traité aussi la pub, quoi. Ça, c'était magique. Il nous a inspirés, pas seulement là-dessus, mais évidemment là-dessus. Ce qui était fantastique avec ce colosse, Coluche, en fait, c'était que il pouvait élargir le domaine de la liberté. À partir du moment où il se répondait sur des radios ou autres, et qu'il était, lui, en toute liberté, il bousculait tout sur son passage. Donc forcément, nous, on n'était que des suiveurs, des mômes qui avions un adulte devant, avec le drapeau de la liberté de déconner. C'était extraordinaire.
Vous êtes d'accord, Marie? Il a vraiment servi de déclencheur, comme ça, littéralement.
Oui. La liberté totale. C'est ce qu'il voulait, quoi.
Jean-Yves, vous dites également que Coluche savait improviser et il était d'une réactivité absolument incroyable. Aujourd'hui, on dirait peut-être un sniper, mais un sniper avec du fond. Est-ce que c'est ça l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire de la radio?
Ah oui, parce que lui, il avait vraiment une conscience très très aiguë de l'homme et de l'humanité.
Oui.
Et de la femme, bien sûr, pardonne-moi Maryse,
Tu
m'en voudras pas trop.
Charline.
Bon, enfin, à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes à la radio, même si vous étiez, Maryse, meneuse d'antenne.
Oui, meneuse d'antenne, tiens, on ne me l'a jamais dit, celle-là.
En fait, Maryse, c'était la reine. Je me souviens, quand je suis arrivé à Europe, elle m'impressionnait. Je sais pas si... Tu te souviens combien de temps j'ai mis avant de te tutoyer ?
C'est vrai, t'as mis du temps. Je te demandais tous les jours, alors on se tutoie quand ? Et t'y arrivais pas.
Ouais, c'était marrant. C'était marrant parce que on a beau être des déconneurs, des sans-foi ni loi ou presque, on a du respect pour les femmes quand même.
Manque plus que ça.
Merci Jean-Yves.
Et Jean-Yves, vous parlez de la radio comme d'une scène sur laquelle il faut être totalement sincère. Maryse, c'est cette sincérité aussi qui a fait la grande force de Coluche à l'antenne ?
Bien sûr, sa sincérité, c'est sa liberté, sa sincérité.
Ça allait avec.
Bien sûr, complètement.
Si Coluche est revenu avec vous sur Europe, Maryse, c'est donc qu'il en était parti avant, mais avant votre émission, il animait avec Robert Villard et Gérard Lanvin, d'avril 78 à 79, on n'est pas là pour se faire engueuler. Mais sa liberté de ton avait beaucoup de mal à passer à Europe, ça ne plaisait pas aux dirigeants, aux annonceurs, et aussi à de nombreux auditeurs qui s'indignaient. Comment est-ce qu'on pourrait le résumer, ce ton ? On parlait de liberté, c'était quasi libertaire.
Oui, c'est quasi libertaire, on est d'accord. Oui, c'est... il aimait provoquer quand même. Hein. Donc, bah oui, il provoquait.
Et sans limite, sans...
Pour lui, sans limite.
Il faut replacer quand même dans le contexte, hein, parce que nous sommes dans une ère giscardienne où les radios d'État ou commerciales étaient toutes soumises à une tutelle politique, plus ou moins...
Il y avait les guerres des ondes. Oui. Avec trois radios, hein, il n'y avait pas de radio libre encore.
Donc. C'était donc une période totalement anti-coluchienne. Il fallait éclater
exactement.
Les cadres.
Oui. Oui, anti-coluche, oui.
Et Jean-Yves Lafesse, qu'est-ce que vous avez retenu de ces périodes-là ? C'est-à-dire que de la première période de Coluche sur Europe 1, ou de son très bref passage sur Radio Monte-Carlo, qui est quasiment devenu légendaire ?
Oui.
Ce que j'en retiens, c'est d'abord l'aspect du pionnier, bien sûr. Et puis utiliser la radio pour ce qu'elle est, un mode de communication. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est que dans la radio, c'est quand on nous parle, c'est extraordinaire. On nous parle en toute liberté, et en même temps, on se met en danger quand même quand on est derrière le micro.
Ouais.
Parce qu'on peut pas mesurer, calibrer chaque mot qu'on va énoncer comme ça.
Ouais.
Et d'où cette idée de sincérité permanente, on est comme on est. Et le micro, il peut nous trahir à certains moments. Ouais. Hein. Mais bon, moi j'avais appris ça en écoutant Inter et Europe 1, quand j'avais 10 ans sous ma couette, en cachette de mes parents, comme tous les mômes de mon âge, de notre génération. Et c'était révélateur. On a eu des noms incroyables comme Michel Lanceau et d'autres qui avaient déjà ouvert ça.
Ouais.
Et cette radio, elle nous relie tous et toutes en direct. Sans filet, c'est magique, mais vous le faites très bien tous les deux, enfin tous les trois. Hein. Mmh. C'est magique cette liberté.
Mais tu nous as fait tellement rire, Jean-Yves. C'est ça. T'as été remercié 10 fois là. Tu te rappelles cette vieille dame avec le plombier?
Ah,
au 32e étage.
43e.
Au 43e. Sans ascenseur. Tellement
bon. Ça, vous savez que j'ai déménagé. Hein.
C'est Madame Ledoux.
Oui,
c'est
Madame Ledoux. Ledoux.
Bonjour, Monsieur Damas.
Bonjour, Madame Ledoux. Comment allez-vous ? Dites-moi, Madame Ledoux, le ton était monté quand même à un moment entre vous et Coluche. Je me souviens d'une engueulade chez Pollack qui était assez homérique, non ?
Alors, en fait, c'est un truc, ça fait 40 ans que ça dure.
Ouais.
Parce qu'ils rediffusent chaque année environ une émission.
Ouais.
Il y a tellement de chaînes de télé. Mmh. Ils rediffusent cette émission de Pollack. Et donc, Jean-Mi, moi, je savais pas exactement ce que je venais faire là.
Mmh.
L'émission de droit de réponse m'avait invité. Bon, à l'époque, on démarrait avec Carbone 14.
Mmh.
Et puis, juste au moment, sur le générique de départ, Jean-Mi vient me voir.
Mmh.
Jean-Michel Vagalzi, et il me dit, bon, Coluche va pas bien, tu sais, mais pas du tout bien, puis il me raconte pourquoi, j'ai pas envie d'en parler, hein, je vais pas dire exactement ce qu'il avait, de toute façon, vous le savez bien, et la plupart des gens le savent également, et quand j'ai vu arriver, je savais de quel mal il souffrait, et j'avais perdu beaucoup de copains avec cette saloperie-là, beaucoup de copains, je me suis battu pour y sortir de là, j'ai pas réussi, et donc je me souviens, j'ai provoqué et tout, et je me suis dit, ben rien à faire, je suis pas là pour défendre mon bout de gras, je vais l'empêcher de faire une connerie, et je me suis dit, je vais lui parler les yeux dans les yeux, mais lui dire le garder en éveil, quoi. Tu vois, et moi j'étais gamin, je devais avoir 23-24 ans, je sais plus, et ça m'a omnubilé cette idée de parce que je sentais sa fragilité aussi, je la sentais, je la percevais, et il était pas à l'aise, en plus cette émission là moi, faisait quand même un peu office de tribunal.
Ouais.
Et j'avais trouvé ça un peu hardos quand même, qu'il n'y ait que des opposants à Coluche. Donc je me suis dit, ben, je vais capter son attention. Et je crois qu'il a compris ce que je cherchais à faire, parce que derrière, il l'a dit sur un plan qui dure une seconde et demie. Il dit, c'est toi qui as raison, mon pote.
Ouais.
Mais ce plan-là est passé inaperçu. Alors, mes potes, les médias, tout le monde m'est tombé dessus, évidemment, pendant à peu près un an. Et depuis, à chaque année, ils rediffusent, j'ai toujours droit. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Et je n'ai jamais voulu justifier, expliquer pourquoi je l'avais fait, parce que ça mettait en cause l'intimité de Coluche, hein, son choix de vie et tout. Et c'est Jean-Michel qui l'a raconté un jour sur Jean-Mi, sur une émission de télé. Et après, bon ben, aujourd'hui, je peux me permettre de le raconter, quoi.
Je referme la parenthèse. Aujourd'hui, nous parlons de Coluche, l'homme de médias, mais également de l'homme qui a su se moquer des médias, notamment en organisant un faux mariage avec Thierry Leluron, en écho à celui très, très, très médiatisé d'Yves Mourouzi.
Je préfère avoir une épouse comme Coluche qui a de la personnalité.
Est-ce que vous pensez que c'est moi que provoque votre mariage ?
Chez les autres ?
Chez tout le monde !
Je les comprends.
Qu'on ne nous accuse pas surtout de moquer d'une institution, d'autres que nous vont s'en charger bientôt plus sérieusement.
Se servir des médias pour mieux s'en moquer. Maryse, vous avez vécu cet épisode de l'intérieur.
Ah, complètement de l'intérieur. C'est moi qui lui ai fermé sa robe de mariée qui était trop petite. Et complètement de l'intérieur, avec des épingles à nourrice derrière. Ouais. Et il manquait 20 cm dans le dos. Enfin, voilà. Oui.
Et puis qui a été très célébré le lendemain matin. Si mes informations sont bonnes, il est arrivé dans un état un peu général.
Oui. On va dire ça.
Bon, on l'a dit, ça y est. Bon, Jean-Yves.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez embrasser Van de notre part, s'il vous plaît?
Ah ben avec plaisir, c'est un peu grand, je sais pas si ma bouche va faire le tour, mais bon, il fait super beau, on est bien, on a de l'iode qui nous protège de la Covid, comme
ouais,
on dit.
Ouais.
Et puis on a quand même pas mal de bars qui nous permettent de boire des canons, pas à l'intérieur, mais dehors, en plein soleil, on est bien face à la mer.
Je suis désolé. Pas du tout inquiet pour vous.
Je peux pas me dire un petit mot de Madame Ledoux, juste comme ça pour moi.
Je vous la passe.
Oui
merci.
Excusez-moi, j'ai encore fait une descente d'organes, mais où c'est qu'elle est passée? Allô?
Oui. Madame Leloup, je vous embrasse.
Mais attendez, permettez une seconde, parce que si jamais il y a un chien errant qui passe, il faut que je récupère vite fait. Hein.
Merci Madame Ledoux.
Saluez. Je vais passer la parole, Antoine.
Oui, et saluez, s'il vous plaît, Jean-Yves Lafesse. Et merci Jean-Yves.
Oui, il est où Lafesse? Ah ben il est parti.
Il est parti. Bon, merci Jean-Yves, à bientôt.
Elle est toujours là.
Je vous embrasse tout
salut
le monde.
Jean-Yves.
Nous aussi, on vous embrasse. Et restons dans cette pop culture avec un autre des potes de Coluche, Jacques Higelin, et ce morceau Champagne.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, Luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vent
cuir ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables sous vos champs des Valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilles émues, fières, gorgones. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition.
Jacques Higelin, Champagne, ça c'était en 1979. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
À New York, mort d'un par un. C'est bien, mais deux par deux, ça irait plus vite.
C'est un extrait de Coluche Info, l'émission qu'il présentait sur Canal+. Comment l'humoriste a-t-il mis un pied, ou plutôt sa chaussure jaune, dans la porte de la chaîne cryptée? Eh bien, réponse avec Pierre Lescure.
On s'est dit avec Alain de Greffe et André Rousselet que sans doute Michel Coluche était la seule personnalité qui était capable de faire changer n'importe quelle Française ou Français de trottoir. Je veux dire par là qu'il faut rappeler 14-18, on est au tout début de Canal, la plupart des gens n'ont que trois chaînes et ne savent pas comment avoir la quatrième. Donc on s'est dit, il faut une attraction tellement décoiffante que même les plus réticents, les plus prudents, ceux qui ne veulent jamais toucher à un appareil, vont y aller. Et on a pensé à Coluche. Donc on a appelé Paul Lederman. Coluche était très intéressé de travailler l'image après avoir travaillé le son à Europe avec Maryse, Gildas et tout le monde. Donc ils sont venus. Et puis à un moment, Michel, qui était assez silencieux, qui laissait Paul discuter des conditions du contrat et du calendrier, à un moment, Michel a regardé sa montre et a dit « Paul, va falloir y aller parce qu'on a rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture pour le projet des Restos du Cœur ». Et lui, qui avait toujours été, pendant tout l'entretien, très très sérieux et très poli, évidemment, très amical et respectueux avec André Rousselet, s'est tourné vers André et lui a dit « Dis donc, président, t'as pas un taxi? Faut qu'on y aille ». Et voilà, Coluche était sur Canal et des centaines de milliers de Françaises et de Français ont trifouillé leur appareil pour se brancher sur la 4.
Bon, le coup du taxi, c'est évidemment parce que Rousselet était le patron des G7. Hein.
Bien sûr.
Merci. Merci Pierre pour ce petit témoignage pop-opien. Vous connaissiez évidemment cette histoire, Maryse, mais est-ce que vous vous rappelez de l'onde de choc provoquée par l'arrivée de Coluche sur Canal?
L'onde de choc.
Ah oui, oui. Ça avait remué. Les...
Ah oui, ça a remué, ah oui. Oui, c'est vrai. Fait... Moi, j'étais très Europe à ce moment-là, donc... Mais oui, c'est vrai. Mmh. Énorme. Oui.
Ceci dit, je vais profiter de vos expertises respectives, puisque vous avez tout votre mot à dire sur la question. Est-ce que c'est lui qui a déterminé ce qu'allait être l'ADN de Canal par la suite, d'une certaine manière, pour tous les gens qui allaient suivre, pour les nuls, comme pour...
Ah, ben, il a ouvert les chakras, on va dire.
Oui, ouais. Voilà. Oui, il a ouvert les chakras. Mmh. Oui, tout à fait, oui.
Oui, bien sûr. Oui. Il a dégagé le terrain.
Il a dégagé.
Voilà. Ça a permis...
Il a poussé les barrières, quoi.
Les nuls ont pris le relais tout de suite derrière.
Hein. Rapidement,
rapidement.
Donc, dégager le terrain.
Oui. Oui.
Et puis les nuls partis, Antoine a pris avec José, juste derrière. Donc,
Alors on va rester dans son univers et dans ce thème avec le sketch. Et alors, il y a la télévision.
Alors, par exemple la télévision. Alors vous avez les mecs qui s'amènent à 8h le soir, avec des tronches de premier de la classe,
Vous voyez, genre Brochine, machin, bonjour, moi c'est Brochine, oui, moi aussi, oui. Moi c'est Jiquel, bon. Et ils s'amènent là, avec des tronches de premier de la classe, qu'on se demande où ils les ont trouvés, hein. Parce que ceux qui avaient dans nos classes à nous, hein, que ce qu'on leur a mis dans la gueule à la récré, ils sont pas arrivés là. Alors ils s'amènent tous avec le sourire au beau fixe, donc, à part le coquartiste, Jiquel, il fait le coquartiste, lui. Monsieur, tout est grave. Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez. Un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte, la vie de ces pauvres bêtes est obligée de manger des vieux. Etc, etc. Alors les autres, ils s'amènent et puis ils vous disent des informations. Alors j'ai pris des notes, moi. Ces journalistes, ils disent toujours qu'on dit que des conneries. Maintenant, je vais dire les leurs. Ça va les promener. Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire. C'est à la télévision, on peut pas dire, hein, la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu, parce qu'on lit pas les journaux, mais dans la télé, c'est pas possible. Bon, alors, par exemple, vous avez... Alors, c'est censé nous intéresser, tout ce qu'ils disent, hein, évidemment, à la télé. Alors, vous avez, par exemple... Alors, voilà. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Ben nous, on s'en fout, hein. On n'a pas demandé de venir, mais enfin, il est là, il n'y a qu'à s'asseoir. Hein. Le président de la République, qui a descendu 2 marches pour l'accueillir. Il se passe des trucs couillants. On n'est pas au courant de tout. Hein. Pour l'accueillir, c'est en un seul mot, hein. C'est pas... Pour l'accueillir en signe de détente. En signe de détente. Attention, 2 marches pour l'accueillir en signe de détente. Ah, 2 marches, c'est détente. Parce que s'il reste sur le perron, il boude un peu, vous voyez. S'il descend toutes les marches, champagne, les gonzesses arrivent. Alors là, vous voyez. S'il n'est pas content, il reste chez lui, donc le premier sinistre. L'autre, il dit, oh, je vous reconnais, c'est Pompidou. Ah non, il est mort, Pompidou. Non, nous a laissé un tas de tuyaux, on a s'emmerdé d'ailleurs.
Ça, c'est 1977, ce sketch, oui. Les journalistes. Mais ah. ça vous fait toujours rire autant.
Oui. Il y a l'autostoppeur aussi, que c'était drôle.
Ça vous fait quel effet de réécouter ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui que peut-être vous n'entendiez pas à l'époque?
Eh bien, c'est sa voix, la résonance de sa voix et le rythme qu'il a. Mm-hmm. C'est fou.
La maîtrise
ça,
du tempo.
Ça résonne en moi, là, tout de suite. Mm-hmm. Ouais.
Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on a, l'impression d'avoir l'image, en fait. Mmh. Le commentaire sur l'image que nous, on ne voit pas, ça marche, en fait, grâce au tempo, grâce à la manière de décrypter. C'est hyper actuel.
Et quand on parle de journalistes et de journalisme, Philippe Gildas disait « Coluche m'a appris qu'on peut détenir un pouvoir et se moquer de soi-même ». C'est une règle qu'il a appliquée pour le restant de ses jours, notre cher Philippe.
Oui, absolument, parce que c'était un journaliste pur et dur, Philippe, au départ, j'avais fait le matin avec lui le 6-9 à Europe 1. Il ne savait pas dire bonjour, il ne savait pas sourire non plus.
Ça a beaucoup changé, si je peux me permettre.
Alors après, grâce à vous, mais... mais avant, ce n'était pas ça. Hein. Si j'ai pu lui apprendre quelque chose, c'est juste ça.
Bon, le croisement, ça... Donc était ce canal, hein, au milieu des années 80, avec cette émission quotidienne qui s'appelait Info. Je vous propose qu'on s'en réécoute un petit bout pour le plaisir.
Toujours lu dans l'excellent Parisien cette nouvelle, comme quoi, en Tanzanie, on a retrouvé quelques cas de peste. Alors il faut le dire, c'est une plaisanterie d'un assez mauvais goût, bien sûr, mais vous savez, c'est très difficile à rater quand même. Des pestes, oui, mais des Tanzanie. Elle est très con, bien sûr, elle est très con.
Elle est très con, mais elle est très drôle.
Oui. Bon, bon.
Et Maryse,
il faisait tout passer, de toute façon.
Il dirait quoi, d'ailleurs, à votre avis, Coluche, de cette époque médiatique folle dans laquelle on vit, où tout est en BFM très priorité, au direct, cette espèce de commentaire constant?
Oui.
Ça l'amuserait, ça l'agacerait, ça l'a...
Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Je me pose souvent la question, j'ai pas la réponse. Mais... Il manque tellement encore, quoi. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Surtout avec l'époque à laquelle on vit, là. C'est...
Non, mais ça, et puis, quand on disait la multiplication des chaînes d'infos qui sont en non-stop, c'est-à-dire qu'à commenter, ça devient complètement impossible.
Ah oui, impossible. Je ne sais pas comment il ferait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il serait là, quoi.
Maryse, nous parlions en début d'émission du morceau de Daniel Balavoine, L'Aziza, c'est un morceau que je vous propose d'écouter tout
de
suite.
Une fois
oui, on peut le passer en boucle, hein, si vous voulez. Pour terminer, ce pop-up spécial, L'Aziza.
Ah là là, on l'avait en début d'émission, au milieu et à la fin.
L'Aziza, Daniel Balavoine, pour terminer ce troisième hors-série de Pop-Pop-Pop consacré à Coluche. Cet Aziza, donc, il écoutait en boucle, parce qu'il était totalement monomaniaque avec...
Avec complètement. Quand il aimait un titre, alors il achetait l'album, mais il écoutait que le titre qui lui plaisait. Sur Billy Idol, c'était ça, par exemple. Un titre, il écoutait le titre sans arrêt, jusqu'à en avoir ras-le-bol. Ouais. Et puis il jetait par la fenêtre, il lui avait raconté qu'il jetait par la fenêtre de la voiture. Après, il le jetait.
Maryse Gildas, vous avez entendu tout à l'heure Alexandre Astier compléter la phrase « Pour moi, Coluche, c'est trois petits points », eh bien, c'est à votre goût. Alors, attendez, je mets un jingle pour rendre la séquence plus solennelle.
S'il vous plaît.
Pour vous, Maryse, Coluche, c'est quoi ?
C'était son intelligence, sa délicatesse, avec moi en tout cas, sa générosité, et voilà, et le manque qu'il nous fait, quoi. N'oublierai jamais.
Merci.
Cet homme-là.
Merci Maryse. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette émission
merci
spéciale.
À vous.
Merci Charline.
Mais merci à Charline. Vous. Merci à tous.
Et merci aussi à toute l'équipe de Popopop et à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui. À demain, si vous la voulez, pensez à mes chômeurs, comme disait Coluche à la fin de ses émissions. Et demain dans Popopop.
Les hommes politiques sont marrants. Encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent.
Coluche et la politique, 4e épisode de cette série spéciale. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Popopop.